L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 103.3 avec Max Trudel.
Rebonjour à tous et un petit désolé à ceux avec qui on a ouvert l'appétit et qui ne sont pas rendus à leur lunch grâce à Yoriane Plante des Fermes Loufa. Ça nous met toujours l'eau à la bouche de parler d'alimentation et il y a tellement une belle mission derrière cette belle entreprise. Mais continuons en haute technologie maintenant, alors que j'ai le plaisir d'avoir Marco Bérubé pour sa première chronique de l'année et il va nous parler de quelque chose qui s'appelle ChatGPT, dont j'ai pas tout compris, je vous l'avoue. Marco, bienvenue.
Salut Max, comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien en ce début d'année, bien reposé après le temps des fêtes.
C'est ce qu'on souhaite.
On est prêt à travailler, puis il y a des nouveaux outils qui nous permettent de travailler plus facilement. Fait que on va en profiter. C'est encore plus encourageant.
Ah ben pour ceux qui ont encore un petit reniflage de rhume des temps des fêtes ou qui ont un petit spleen, c'était la journée la plus triste, je pense, cette semaine là ou quelque chose du genre. Je t'avouerai que ça m'a pas très affecté. Mais pour ces gens-là, ben on a un outil intéressant, je pense.
Ben, sais-tu quoi, je vais te faire une parenthèse là-dessus. J'ai lu à propos du Blue Monday, là. Tu sais, tu sais que j'aime ça donner des fun facts qui n'ont aucune valeur, là, mais le Blue Monday a été inventé par une agence de marketing britannique pour un contrat d'une agence de voyage pour stimuler les ventes de voyage. Fait que c'est une invention marketing pour forcer les gens à dépenser. Fait que fin de l'édito, soit ça très drôle à mentionner.
Ah ben c'est un premier férié inventé par le marketing, tiens, parce que ouais, Noël ouais, et les autres n'étaient pas assez.
on le voit pas du tout dans les centres d'achat, c'est marketing, les fêtes. Pas du tout,
je t'invite à commencer à penser à tes cadeaux de Saint-Valentin.
Ah non, j'en pense pas là-dedans. Fait que, non, mais aujourd'hui, je vais te parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui a été. Ben, ça fait longtemps, ça fait peut-être 10 ans qu'il travaille là-dessus, mais elle a vraiment été commercialisée à la fin de 2022. Et moi, j'ai commencé à jouer avec dans les derniers mois et je suis absolument subjugué par le potentiel de cet outil-là. Puis tu sais, je résume très, très brièvement, là, c'est openai.com, c'est le site si les gens veulent y aller, donc openai.com. Et c'est une intelligence artificielle qui va aller faire les recherches sur Internet et va répondre à nos questions sous la forme qu'on lui demande. Exemple, j'ai une agence de marketing numérique, je dis à ChatGPT, trouve-moi 10 sujets d'articles de blog pour une agence de marketing numérique. Et instantanément, pic, il me sort 10 sujets basé sur les recherches qu'il fait sur l'Internet puis l'analyse qu'il en fait. Donc, c'est un outil, c'est comme si on avait une recherchiste ou un recherchiste à temps plein au bureau, mais qui travaille en millisecondes.
Et jusqu'où tu peux aller dans la précision de ta recherche? Peux-tu dire, donne-moi 10 sujets qui sont les plus recherchés par les gens de telle industrie, etc., etc., ou ça reste quand même premier niveau?
Ah non, c'est ça peut être très, 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 très large. La seule nuance qu'il y a, c'est que la base de données date de 2021. Donc, ils n'ont pas intégré toutes les données de 2022-2023. Fait qu'il y a quand même un frein par rapport à ça. Mais tu sais, on peut lui demander. J'ai fait des tests avec et tout ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, je sais pas si tu savais, mais moi, je suis vraiment un gros fan de la philosophie Moneyball.
Tu me l'apprends.
Ben, c'est ça. Puis, j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai dit, explique-moi comment la technique Moneyball pourrait aider les entreprises en temps de récession. Paf! Il m'a sorti un texte de 500-600 mots avec vraiment une belle structure de phrase, pas faute, pas de plagiat, entre parenthèses, parce que il va chercher l'information à quelque part, puis on n'a pas les sources. Fait que ça, déjà, il y a un enjeu éthique qui est là. Mais la capacité qu'ils ont, que la plateforme a d'aller chercher de l'info, puis de faire des phrases, puis de faire des textes, c'est épeurant. Même je dirais pas que c'est intéressant, c'est vraiment épeurant. Parce que si on pense juste, exemple, à l'éducation, ben n'importe quel étudiant, puis là, l'objectif, c'est pas de donner des trucs, là.
Mais ils sont à l'école sur l'heure du lunch, ils nous écoutent pas.
Exactement.
On peut y aller.
Mais tu sais, un étudiant peut aller sur ChatGPT et dire fais-moi un texte de 700 mots sur la guerre en Ukraine. Paf! Instantanément, c'est fait. C'est validé. Fait, il y a un potentiel incroyable pour tout. Parce que là, moi, je me suis amusé avec. Au niveau marketing, ben je suis capable de dire, fais-moi des articles de blog, fais-moi un courriel, écris-moi un courriel de prospection pour un client. Et là, ils vont me faire le courriel avec l'expéditeur, le titre, l'accroche et tout ça. J'écris à ChatGPT, j'ai dans mon frigo du brocoli, du poulet, du jambon, du riz, propose-moi 5 idées recettes. Il me propose 5 idées recettes. J'ai des poids de 5 livres, 10 livres, 15 livres, 20 livres à la maison. Je voudrais me faire un programme d'entraînement sur 3 jours. Paf, il me propose un programme d'entraînement. Les capacités sont infinies.
Est-ce qu'on est capable de valider la qualité de tout ça? Parce que si ChatGPT scanne tout ce qui est disponible en ligne, il n'y a pas des chances qu'il surpondère, je vais dire, les mauvaises sources d'informations et que finalement, on glisse vers le bas en termes de qualité?
Définitivement. Définitivement que c'est un risque. Moi j'aime bien l'utiliser. Moi, je le sais, je l'ai dit tantôt, je l'utilise comme un outil de recherche et un outil d'optimisation. Je l'utilise pas comme un outil de création. Je vais pas prendre ChatGPT puis commencer à faire des stratégies numériques, des articles de blog, mais c'est une très bonne base. Tu sais, tantôt, je te racontais l'histoire des recettes. Ben, les recettes qui vont me sortir, ben, je veux dire, il y a pas de fausses informations là-dedans. Du brocoli reste du brocoli, tu sais. Mais ça ouvre un monde de possibilités incroyables, tu sais. Je rigolais avec ça, mais la technique Moneyball, qui est beaucoup dans les petites actions à haut rendement. Donc, je pense aux entreprises qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, qui n'ont pas des expertises en médias sociaux, qui n'ont pas les ressources. Mais c'est un outil fabuleux pour pouvoir les aider dans leur création de contenu.
Puis je parlais des jeunes entrepreneurs hier, justement. Puis bon, c'était pas des gens qui venaient du marketing. Et là, quand on leur dit, ben tu dois commencer, créer du contenu, fais-toi connaître. Mais là, je commence par où? Je sais pas comment faire ça. Ben, ça peut être un très bon outil. Et tu arrives avec un texte, avec une colonne vertébrale de texte, si je peux dire, que tu as juste à peaufiner, à réviser, à ajuster. C'est beaucoup plus facile. Tu n'auras jamais le syndrome de la page blanche, finalement, avec ça. J'entends, c'est qu'il n'est pas autonome. Tu ne peux pas le laisser gérer ton blog et publier parce que c'est un terrain glissant, puis il y a une notion d'expertise, d'opinion, tout ça, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va aller piger. Mais la structure du texte est là, ajuste les faits, ajuste les opinions et tu arrives à quelque chose en quelques minutes, probablement.
Ben, définitivement. T'sais, quand on était plus jeune, puis qu'on était à l'école, puis il fallait faire de la recherche sur un sujet, ben là, il fallait qu'on aille voir différents sites. Puis que là, on allait voir sur un site, on trouvait un fait, on trouvait une statistique, on trouvait un ci, on trouvait un ça. Mais là, maintenant, ChatGPT le fait pour nous. Fait que dans un objectif où est-ce que, je suis dans le domaine des assurances, et quelles sont les 5 questions que les gens se posent le plus en termes d'assurance-vie? Je pose la question, ils me donnent les réponses. Ben là, j'ai déjà des éléments pour être capable de dire, bon, ben, est-ce que je pourrais prendre ces 5 sujets-là et faire des vidéos là-dessus? Est-ce que je pourrais en faire des posts Facebook, LinkedIn? Est-ce que je pourrais en faire des articles de blog? Et là, ça nous permet de commencer à jouer. Donc, dans une démarche de brainstorm, récolte d'informations et tout ça, ça peut être un super bon point de départ. Puis, pour des entreprises qui ne font pas de marketing parce qu'ils n'ont rien, ben c'est clairement un outil qui va pouvoir les aider à pouvoir avoir du contenu de façon facile et récurrente, là.
Mais ce que tu me disais, c'est qu'on ne sait pas quelle est la source de l'information. Est-ce que je comprends? On peut pas reprendre le texte et lui dire, ben trouve-moi les sources derrière ce texte ou cette idée que tu nous as pondue. Est-ce qu'il y a au minimum une organisation qui suit l'évolution de tout ça et qui gère en arrière, ou c'est un peu à la Bitcoin où justement on est dans l'idée que la technologie va être autonome par elle-même et on la laisse aller au vent de ce qui arrivera avec?
Pour le moment, il n'y a aucune validation. Il n'y a aucune validation. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, exemple, si tu décidais d'utiliser ChatGPT pour faire un rapport ou une étude de marché ou quoi que ce soit, mais là, après ça, il faudrait que tu fasses de l'ingénierie inversée. Donc, il faudrait que tu prennes les citations qu'ils t'ont données, puis tu ailles les chercher sur Internet pour voir qu'ils proviennent de quel site. Fait que, c'est vraiment pas une situation parfaite. C'est une révolution complète et totale parce que les gens ne pourront pas s'en sauver. J'ai écouté un podcast là-dessus où est-ce qu'un ingénieur de Twitter a demandé à ChatGPT de lui faire des lignes de code. Et ChatGPT lui a fait des lignes de code qui étaient efficaces et qui fonctionnaient. Fait qu'il va y avoir une révolution dans tous les domaines à propos de ça. Mais on est encore très, très loin dans l'uniformité puis dans la conformité, je dirais, de tout ça. Je pense honnêtement que ChatGPT a été probablement dépassé par l'intérêt que les gens ont eu pour leur plateforme. Fait que là, il va falloir l'ajuster. Ils sont déjà en train de parler de mettre des clés cachées dans les textes pour permettre aux professeurs, exemple, de voir est-ce que ce texte-là a été fait avec ChatGPT pour pouvoir protéger du plagiat et tout. Fait que les gens n'auront pas le choix de s'adapter à cette nouvelle technologie-là parce que moi, je suis persuadé qu'elle est là pour rester. Là. C'est trop puissant. C'est trop intéressant pour que les gens ne l'utilisent pas.
Et à ce que j'entends, c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde aussi. Donc, c'est pas réservé justement à l'ingénieur de Twitter ou le Marco Bérubé qui est à l'aise avec la technologie. N'importe qui peut aller là-dessus, passer une commande et arriver à un résultat qui est quand même correct et acceptable.
Oui. Non, pour le moment, c'est gratuit. Donc, les gens peuvent y aller. C'est là, c'est disponible. T'sais, les gens peuvent y aller. On est en train de se parler en ce moment. Ils vont sur openai.com qui sont capables de commencer à faire des trucs déjà. Éventuellement, j'ai le feeling que ça va devenir, peut-être que ça va devenir payant pour une version premium, exemple, si tu veux plus de mots ou quoi que ce soit. Mais où est-ce que l'enjeu devient incroyable? C'est qu'il faut comprendre que OpenAI, ils viennent de commercialiser, puis c'est une entreprise qui ne fait pas d'argent en ce moment. Donc, ils ont été financés par Microsoft. Okay? Détail qui est très important. Parce qu'ils utilisent les serveurs de Microsoft. On s'entend, ça prend des serveurs absolument gigantesques pour gérer tout ça. Et Microsoft, on le sait, la plateforme de navigation que Microsoft a, c'est Bing, qui est, on s'entend, une plateforme qui n'est pas utilisée ou très, très peu. Les gens vont utiliser Google, vont utiliser Safari. Et là, ils sont en train de travailler avec Microsoft pour implanter leur intelligence artificielle de ChatGPT dans le moteur de recherche de Bing.
Donc, il y a quand même un objectif commercial en arrière de tout ça et peut-être qu'un choix ou une offre concurrente. Je me doute que si Microsoft amène ça, Google doit déjà travailler sur un concept similaire de l'autre côté là, avec les ressources qu'on leur connaît.
Oui, mais si on revient en arrière, quand Google est lancé, ben, tu sais, Bing est encore populaire. Il y avait Netscape à l'époque et tout. Et là, Google est arrivé avec la révolution des moteurs de recherche. Et là, tout le monde a migré sur cette plateforme-là. C'est une course-là. Enfin, la journée que ChatGPT va transférer sur Bing puis qu'on va pouvoir faire des recherches, puis les gens, il faut qu'ils comprennent, là. Ce que ça va faire comme différence, c'est qu'en ce moment, exemple, si je veux savoir c'est quoi la différence entre un REER et un CELI, ben là, je vais aller sur Google. Je vais faire la recherche et là, ils vont me sortir des sites qui vont me donner des explications. La journée que ChatGPT est mergé à Bing, je vais écrire dans mon outil de recherche quelle est la différence entre un REER et un CELI en 500 mots. Ils vont aller chercher tous les sites web, ils vont aller chercher toute l'info et ils vont me faire un résumé. Donc, au niveau de la recherche de contenu puis de la recherche d'informations, on est à un autre niveau, là. La journée que Microsoft est capable d'implanter ça sur Bing, il va y avoir un mouvement de public là, que les gens vont quitter Google pour s'en aller sur Bing. Ce qui veut dire que les entreprises qui, exemple, utilisent beaucoup la publicité sur Google pour pouvoir aller chercher des clients, ben vont devoir s'adapter parce que là, il va y avoir une grande migration de leur client potentiel qui va transférer sur Bing. Tu sais, quand je parle de révolution, là.
Ça peut entraîner un mouvement dans toute l'industrie numérique, à ce que j'entends, et un changement de nos comportements, simplement parce que tout d'un coup, Bing, qu'on, je vais dire, négligeait abondamment, pourrait devenir plus efficace que Google, c'est ce que j'en comprends.
Hey, puis je fais une prédiction aujourd'hui, là, c'est pas ça pourrait, ça va être. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas arriver. Microsoft est là, OpenAI fonctionne, il reste juste à fusionner les deux. Moi, je l'ai déjà, tu sais, on en a déjà parlé à l'interne chez Agence Mobux. On a déjà commencé à développer des campagnes sur Bing, ce qu'on faisait plus ou pas. Puis on veut être prêts. On veut commencer déjà à voir ça parce que la journée que ça va, que la migration va être faite, les entreprises qui vont être en retard, ben, ils vont perdre une fenêtre d'opportunité incroyable. Puis à l'inverse, celles qui sont à l'avance puis qui sont prévoyantes, ben, ils vont pouvoir profiter de ce trafic-là, parce qu'il y a une grande partie de la compétition qui vont être en retard. Fait que c'est une révolution pour la création de contenu, c'est une révolution pour la recherche, pour la publicité et tout. Puis je pense aussi que c'est malheureusement, ça va être une révolution aussi pour le monde de l'éducation. Le monde de l'éducation ne peut plus réfléchir de la même façon avec un outil comme ça, où est-ce que on a des jeunes qui doivent faire des projets personnels, qui doivent faire des productions écrites, qui doivent faire des devoirs, puis là, la réponse est à quelques coups de clavier. Il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on évalue les jeunes, quelles sont les matières qu'on va leur donner, puis comment est-ce qu'on fait le processus d'évaluation, parce que on va se ramasser avec des jeunes qui n'ont aucune connaissance parce que ChatGPT va passer le bulletin à leur place. Là.
Donc, tout va devoir être fait offline, si je peux dire, en classe, avec un bon vieux crayon à mine. On part de là. Mais je pense que le monde de l'éducation, honnêtement, est habitué à ça. Je me souviens, quand j'étais sur les bancs d'école, on se faisait dire que Wikipédia était une source abominable de mauvaises informations. Quand j'ai commencé à enseigner par la suite, ben, c'était une des sources les plus utilisées par les étudiants à travers leurs cours parce qu'il y avait une validation et contre-validation. Google a complètement remplacé notre bonne vieille recherche documentaire sur diapositives et autres. Donc, on est habitué, ça va de plus en plus vite. C'est une prochaine étape, mais je pense que le monde de l'éducation est habilité. Les enseignants vont l'utiliser probablement, les chargés de cours, les professeurs dans leur propre recherche, donc vont connaître l'outil à un certain stade. Peut-être qu'ils vont être dépassés pendant une session, un an, par leurs étudiants, parce que les jeunes sont souvent plus à l'aise que nous avec les nouvelles technologies, mais je pense que le milieu de l'éducation va être capable de s'adapter à ça et de se dire, bien, c'est la nouvelle réalité du monde du travail pour lequel on veut préparer nos étudiants, on n'a pas le choix de faire avec.
Non, c'est définitif. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir mettre l'emphase sur la compréhension de ce que tu as écrit et non le simple fait que tu as écrit quelque chose. Donc, tu sais, exemple, les exposés oraux, les examens en personne et tout. Mais on va surtout arriver sur la qualité du contenu. Parce que, tu sais, on parle de création de contenu. Oui, les entreprises peuvent aujourd'hui aller sur ChatGPT puis en dedans d'un après-midi, ils peuvent se faire 100 articles de blog ou une thèse de doctorat, mais faut, l'autre aspect qui arrive, puis je vais parler de marketing, dans les prochaines semaines, il va y avoir une avalanche de nouveaux contenus parce que tout le monde va comprendre que, hey, je peux faire du contenu rapidement, efficacement avec ChatGPT. Et ça, on avait déjà parlé dans des articles, dans des chroniques précédentes de l'algorithme. Ben là, si toutes les entreprises font 10 fois plus de contenu, ben on va se battre contre 10 fois plus de contenu. Donc, on doit s'assurer que notre contenu a une valeur ajoutée. Fait que ChatGPT, encore une fois, c'est un bel outil pour éviter le syndrome de la page blanche, pour pouvoir nous donner un guide, pour faire de la recherche majeure. Mais après ça, il faut que nous, on amène notre propre expertise pour pouvoir l'amener à un autre niveau. Je pense que c'est de cette façon-là que ChatGPT va vraiment avoir du succès.
On va garder tout ça à l'œil. Merci beaucoup, Marco, de tes conseils éclairés, de ce que tu nous as fait découvrir ce midi. C'est tout, évidemment, pour nous. Mais un gros merci. Allez voir ça, ChatGPT. Je suis le premier curieux qui va aller l'essayer. Et un gros merci aussi à Yuriane Plante, directrice des communications chez les Fermes Loufa, de nous avoir mis en appétit ce midi. Restez avec nous tout l'après-midi. Jean-Yves Lemay prend la relève en musique pour tout l'après-midi. Et on se revoit de notre côté la semaine prochaine avec l'Entrepreneur Branché. Bonne journée.